Secret Terrain.
Bonjour et bienvenue sur Secret de Terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de Terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. Quand on pense gang, on pense The Wire, ou Gangs of New York. Le monde des gangs semble indissociable de l'Amérique, essaimant dans les films, les livres et la culture populaire. Ces gangs dont l'histoire est intimement liée à celle des États-Unis et du monde latino-américain sont régulièrement cités pour leurs crimes, proxénétisme, braquage, trafic de drogue, meurtre. Parmi les nombreux gangs agissant à New York, celui des Nietas, l'Association, a une histoire particulière. Il a été fondé au début des années 1980 dans une prison portoricaine autour d'un chef charismatique, Carlos Torres Iriarte, aussi connu sous le nom de la Sombra, l'ombre. À son assassinat, en 1981, le gang s'étend aux États-Unis, mais aussi à Porto Rico et à Barcelone. L'anthropologue Martin Lamotte s'est rapproché de plusieurs membres de ce gang à New York au tournant des années 2010. Il découvre les différents cultes et rituels secrets qui animent le gang au quotidien. Un jour de printemps 2012, lors d'un déménagement, Martin Lamotte ouvre un tiroir.
On est au printemps 2012 et c'est quelqu'un qui s'appelle Mickey dans mon travail qui m'a invité à déménager sa sœur qui s'appelle Yas. Mickey, c'est le président des Nietas, du chapter Nietas de New York, que moi je côtoie maintenant depuis à peu près 2 ans. Et donc j'arrive, on est dans le South Bronx, et il y a entre 5 et 10 personnes qui sont là, qui sont en train de déménager des cartons. Et bon, voilà, on passe quelques heures à sortir des cartons, et à un moment donné, Mickey me dit, viens, alors il m'appelle Frenchy, tous à New York, il me dit, viens, Frenchy, je vais te montrer un truc. Et il me dit, tiens, ouvre le placard, regarde ce qu'il y a là. Donc j'ouvre le placard et je vois des cartons avec des papiers dedans. Et il me dit, tu vois ça, regarde-le bien parce que tu le verras jamais, en fait. Tu pourras jamais voir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, ce qu'il me dit surtout, c'est regarde bien que tu ne pourras pas regarder, quoi. C'est un carton avec des papiers, tu sauras pas ce que c'est, mais c'est important et je te le dirai jamais. Voilà, donc il referme ça et puis on s'en va tous prendre une bière. Je suis assez habitué en fait par ce genre d'attitude qu'a Mickey en fait. Il est toujours dans cette espèce de secret. C'est un peu tout le jeu du secret en fait, de montrer qu'il y a quelque chose à voir et en même temps que je peux pas le voir. Sinon, c'est pas tellement intéressant en fait. Moi, j'ai quand même une petite idée de ce que c'est parce que je passe beaucoup de temps avec Bebo par ailleurs, qui est en fait mon entrée sur ce terrain. Bebo, quand je le connais, c'est un activiste, un militant, et il travaille dans des community organizing, dans des centres communautaires, en fait. Mais surtout, Bebo, c'est l'ancien leader des Nietas au niveau international. Et lui me montre des papiers, et en fait, il me dit que les Nietas ont développé un rapport à l'écriture assez rapidement, en fait, à partir des années 90. Et Bebo, lui, il a plein de classeurs avec des choses qu'il a écrites, des poèmes que des prisonniers lui ont envoyés, et beaucoup d'articles, en fait, qui parlent soit des Nietas, soit des Latin Kings. I know niggas who done switched sides. I know niggas who done told lies. I know niggas who done got bread, but they never ever broke pies. Always see me with a gold flag. Bees on me with a faux pas. Les Nietas, c'est une association. À la base, c'est une association de prisonniers qui est née à la suite du meurtre d'un personnage qui s'appelle Carlos Torres Iriarte, aussi connu comme Carlos La Sombra. En 81, il est assassiné par un autre groupe. Et en fait, c'est à la suite de cet assassinat que des amis de Carlos vont venger sa mort et que va être créé les Nietas, ou la Association, comme ils l'appellent. suite aux vagues d'immigration au début des années 90 de Portoricains sur le continent américain. Les Netas vont se redévelopper à New York, notamment dans le système carcéral new-yorkais à Rikers Island. Et du coup, va se recréer ce groupe-là de prisonniers, d'entraide de prisonniers à Rikers Island et puis dans d'autres petites prisons. Et à New York, en fait en 92-93, des prisonniers qui sortent de Rikers Island décident de reconstituer leur groupe d'entraide et donc de reconstituer ce qu'ils appellent un street chapter, donc un chapitre de rue en fait de Netas. Et c'est à partir de là que les Netas vont se développer vraiment comme un groupe de rue et en fait progressivement comme un gang de rue. Terror Squad. Now why you wanna go fuck with them? Platinum status, motherfuckers. Moi Bebo, je le rencontre parce que j'arrive à New York. J'ai mis beaucoup de temps à arriver dans le South Bronx, parce que j'avais tout un imaginaire du South Bronx comme un quartier un peu violent, où en gros j'allais me faire attraper à chaque coin de rue, et j'arrivais pas à rentrer, et finalement je suis rentré en me disant je vais passer par des associations communautaires. Et c'est dans ces associations communautaires que je rencontre ce type, qui est un énorme portoricain obèse, tatoué du pied à la tête, et qui, en marchant comme ça, on sort avec les jeunes dont il s'occupe, et qui me dit, tiens, regarde, Martin, là, tu vois, au coin de rue, là, j'ai failli me faire attraper par un gang ennemi. Il voulait me tuer, en fait. Et puis, heureusement que j'étais armé, que j'avais des potes avec moi, parce qu'on leur a tiré dessus, et c'était un drive-by shooting, et ils sont partis, et puis voilà. Et donc, moi, je regarde, et je dis, en fait, c'est exactement ça que je cherche, quoi. Je suis venu pour étudier les gangs et l'histoire politique de ces gangs-là. Et voilà. Donc je rentre comme ça. Et puis avec Bebo, en fait, toutes les semaines, je vais chez lui. Et puis, on parle un peu de cet univers-là, de ce monde-là, de cette culture-là. Et il me dit, mais tu connais pas Immortal Technique t'écoutes quoi, en fait? Et voilà, il me dit, écoute ça, parce que ça va te parler de ce monde-là, quoi. De ce monde de gangs. They drove around the project slow while it was raining, smoking blunts, drinking and joking for entertainment, until they saw a woman on the street walking alone, 3 in the morning, coming back from work on the way home. Mais c'est le hip-hop des années 90, un hip-hop un peu gangsta, et surtout l'histoire que ça raconte, c'est l'histoire de l'intronisation d'un non-initié à un gang. Et c'est une intronisation qui est très violente, parce qu'en fait, ce que raconte Immortal Technique, c'est que ce jeune-là, pour devenir membre d'un gang, il doit violer quelqu'un, il doit violer une femme, et en fait, il se rend compte, donc à la fin de la chanson, que cette femme, c'est sa mère. Et donc, du coup, il se suicide. Et en fait, Bebo, il me donne ça à écouter, en me disant, tiens, voilà, écoute, sur l'intronisation du gang. Donc, il y a aussi tout un jeu, en fait, de miroir avec ce que c'est que les Netas, sachant que Bebo, lui, c'est quelqu'un qui a toujours refusé de se faire appeler gangster. Dans les Netas, notamment à New York, il y a tout un jeu. Il y en a qui vont dire, nous, on est des bons gangsters. Et d'autres qui disent, non, mais nous, on n'est pas un gang. C'est Giuliani qui a dit qu'on était un gang. C'est la police et c'est l'administration new-yorkaise. Nous, on est un groupe politique. En fait, à partir des années 90, quand les Netas se développent en groupe de rue, il va y avoir deux tendances, en fait. Une première tendance qui est la tendance qu'on pourrait appeler un peu classique du gang, c'est-à-dire, ils vont vendre de la drogue et vendre des armes à feu. 90, on est en pleine épidémie de crack, on est dans le boom de l'épidémie de crack, donc eux, ils vont rentrer là-dedans à fond. Vendre du crack, vendre de la cocaïne, notamment dans le South Bronx, un petit peu dans Harlem et beaucoup à Brooklyn. Il y a une autre tendance des Netas, à partir de ces années 90, qui est une tendance plus politique, disons, qui va dire, non, en fait, nous, on n'est pas un gang, on est un groupe d'entraide. Et notamment d'entraide, d'abord de prisonniers, mais aussi de portoricains. Mi mente corre como colueta, por eso yo no me tengo que ir a las galletas. Para rajarte el melón, uso mi libreta. El micrófono en mi metralleta. Esto lo sé yo. Au milieu des années 90, en fait, et notamment sous l'impulsion de Bebo, les Netas vont décider de sortir des guerres de gang et se regrouper sur la tendance politique, en fait. Et c'est notamment Bebo qui va l'insuffler. Et il va l'insuffler sur tout un travail autour de l'écriture, et notamment de l'écriture d'un livre qui s'appelle Le Liderato, à New York, qui relate l'histoire de Carlos La Sombra, qui reprend les règles des Netas, donc il y en a 25, la philosophie, tout un code de conduite. Et en fait, c'est Bebo qui va pousser ça, formater, écrire ce livre, en reprenant par-ci par-là des écrits, et pousser en fait à cette désescalade de conflit. C'est un épisode important dans l'histoire des gangs américains. En fait, c'est la fin de ce boom de la coke et du crack. En fait, il y a un abaissement du marché. Et c'est aussi le début de l'ère Giuliani. Quand Rudolph Giuliani devient maire de New York, il met en place sa politique de tolérance zéro. Et en fait, cette politique de tolérance zéro, elle s'accompagne surtout d'arrestations massives des jeunes de couleur et donc des jeunes portoricains. Donc en 2012, quand moi j'arrive, les Nétas se sont complètement pacifiés et eux utilisent ce terme de pacification. En fait, ils disent ouais, non. En fait, les Nétas vont dire c'est pas Rudolph Giuliani qui a pacifié la ville, c'est nous, c'est les gangs, c'est le grand gang, c'est les Nétas, les Zoulous et les Latin Kings. Et donc ils ont mis en place à partir des années 90 et jusqu'à ce que j'arrive. Beaucoup d'activités politiques, en fait, de manifestations. Ils ont participé à tout ce qui est les manifestations contre la violence policière. Dès les années 90, ils ont été partie prenante de ces manifestations. Quand moi, j'arrive en 2012, j'arrive après Occupy Wall Street, et eux ont été appelés par les militants d'Occupy Wall Street pour venir notamment sécuriser Zuccotti Park et apprendre aux militants à faire de la désescalade de violence, à montrer comment on peut gérer des conflits de rue sans en passer par les armes. Ils ont tout cet aspect public de manifestation. Ils organisent beaucoup aussi des veillées mortuaires. Ils se retrouvent à un coin de rue où un jeune a été assassiné par la police ou par un autre gang. Et voilà, ils organisent des veillées où ils font venir la communauté. Donc ça, ils sont assez... assez partie prenante de ces genres d'activités. Puis après, ils ont leurs propres activités qui sont une activité importante qui est le Grito, qui est en fait organisé tous les 30 du mois, qui en fait célèbre la mort de Carlos La Sombra. Le Grito le plus important de l'année, c'est le 30 mars. Le 30 mars, il célèbre l'anniversaire de la mort de Carlos, qui a été assassiné le 30 mars 1981. Après, il y a le 30 septembre, qui célèbre justement la recomposition du groupe après la vengeance des Nietas envers ceux qui ont tué Carlos. Et c'est un moment assez important pour eux. Ils se mettent en rond. Il y a toute une cérémonie avec des chants, il y a des prières, donc des prières qui sont écrites. C'est toujours les mêmes. Et il y a un moment où les Nietas vont crier Association. Enfin, c'est le leader qui va crier Association et les autres répondent Nietas ou De Corazón. Par rapport au livre, en fait, c'est Bébo, lui, qui m'en parle. Il me dit, bah oui, on a commencé à écrire ce livre dans les années 90. Il en est assez fier, parce qu'en fait, c'est un peu son héritage qu'il a donné à ce groupe-là. Mais il m'en parle sans me le montrer, parce que Bébo me dit, moi, je suis plus membre... c'est-à-dire qu'il est toujours actif. Ils ont un système où ils sont actifs et non actifs. En fait, jusqu'au milieu des années 90, début 2000, on pouvait pas sortir du gang des Nietas. Le slogan, c'était de dire on sort soit en tant que prêtre, soit dans un sac mortuaire, en fait. Et Bébo et un autre leader important du gang ont décidé, eux, au début des années 2000, de sortir du gang, parce que voilà, ils en avaient marre, qu'ils étaient aussi poursuivis par la police et par le FBI. Donc il y a beaucoup de pression, mais ils en sont sortis. Et vu que c'est des figures importantes, ils ont réussi à trouver ces compromis avec les membres actuels de actifs, non actifs. Donc en fait, ils sont toujours Nietas, mais ils sont non actifs. Et lui, Bébo, me dit, bah voilà, moi je suis non actif, je peux pas te donner ce livre. C'est un livre qui est secret, c'est un livre qui est sacré pour les Nietas. Il faut que tu demandes à Mickey, il faut que tu demandes aux Nietas. Mais moi, mais par contre, je peux te dire qu'il existe. Donc, quand Mickey, lui, me montre dans ce fameux placard chez sa sœur, cette espèce de carton avec des écrits, moi je me doute bien qu'il s'agit du Liderato, ou en tout cas de certains fragments du Liderato. Le livre, en fait, il y a que les Nietas qui y ont accès, normalement. Après, c'est là où c'est un peu ambigu, parce que, par exemple, dans le livre, il y a les règles, il y en a 25, qui sont... c'est l'histoire, en fait, que racontent les Nietas, qui viennent de Porto Rico, qui ont été inscrites dans une des cellules de Porto Rico, et ces 25 règles, elles sont complètement secrètes. Mais en même temps, quand Bébo me dit ça, et quand Mickey me dit ça, ils me disent, mais bon, en fait, on peut les trouver sur Internet. parce qu'il y a quelqu'un qui les a recopiés sur Internet. Donc c'est là où, en fait, ce qui est important, en fait, c'est pas tellement la nature du secret, en fait, qu'est-ce qui est caché, mais plutôt le fait de cacher, en fait. Et c'est là où il y a toute une relation avec le chercheur, qui est une relation parfois de pouvoir, parfois d'amitié, mais aussi un positionnement des nietas sur, voilà, on a quelque chose de caché, on a quelque chose de secret. Sur le terrain, je me dis ça, je me dis bah, voilà, j'ai pas accès à quelque chose qui doit être qui est super important pour la suite de cette recherche. Est-ce que j'y aurai accès? Je sais pas. J'essaye de demander à Mickey, mais bon, il botte en touche à chaque fois en me disant bah non, t'es pas initié, tu auras pas accès. C'est un espèce de blanc, en fait, à ce moment-là, dans ma recherche. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans ce livre-là. Et je vais l'apprendre beaucoup plus tard, par un décentrement que je fais, parce qu'en fait, je pars après à Barcelone, où le gang s'est développé, et c'est à Barcelone que le leader de Barcelone va me donner à avoir ce livre-là. Depuis le début de ma recherche, en fait, moi, je m'étais dit, je vais essayer de retracer cette circulation et essayer de partir dans les autres endroits où sont implantés les Nietas. Et à la fin de ces 2 années à New York, j'ai demandé à Bebo, bon bah, maintenant, je veux partir à Barcelone. Comment je fais? Et en fait, c'est Bebo qui m'a écrit une lettre de référence, en fait, à un personnage qui s'appelle le Padrino. En fait, le Padrino, c'est le chef Nietas de Barcelone, en lui disant bah écoute, voilà, Frenchy, c'est mon gars, c'est mon frère, il va venir chez toi et t'es chargé de ta sécurité. Et donc, quand moi j'arrive à Barcelone, j'arrive avec cette lettre-là et je m'intègre comme ça, en fait, au groupe barcelonais. Me gusta mi reggae. Et Neta se développe à New York dans les années 90, à ce même moment où ils deviennent un gang de rue, donc 92-93, il va y avoir 2 prisonniers équatoriens qui vont se retrouver à Rikers Island, qui vont devenir Nietas. Et c'est un peu la double peine, une fois qu'ils sortent de prison, ils sont expulsés en Équateur. Et ces 2 prisonniers, ils prennent avec eux des bouts du liderato et reconstituent les Nietas à Guayaquil, en Équateur. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une première circulation une deuxième, de Porto Rico à New York, puis de New York à Guayaquil. Et les Nietas vont se redévelopper, notamment à Guayaquil et à Quito. Et les Latin Kings auront la même trajectoire. Et donc, du coup, on va retrouver les mêmes guerres de gang qu'il y a eu entre Nietas et Latin King à New York. On va les retrouver en Équateur. Et ensuite, d'Équateur, dans les années 2000, y a des Nietas qui vont partir vivre en Espagne. Et donc, du coup, par ce biais migratoire, on va avoir une nouvelle circulation des Nietas, une nouvelle implantation, en fait. Et d'où on a ce réseau, ce maillage global des Nietas. Et du coup, c'est le Padrino, à un moment, qui me propose de devenir Nietas, en fait, de m'initier. Et donc, du coup, par ce début d'initiation, j'ai accès au livre, en fait. Il y a une image qu'on a un peu des gangs où, en fait, l'initiation, ça serait un tabassage ou un meurtre. C'est une image qui est véhiculée par beaucoup de chansons, par beaucoup de films. Les Nietas, c'est pas ça. En tout cas, à partir du moment où ils se pacifient, c'est pas ça. Je peux pas dire que ça l'était pas, mais en tout cas, ça l'est pas à partir du milieu des années 90. L'initiation, elle se fait sur... En fait, il y a tout un processus qui s'appelle la conviviencia, qui est un processus qui peut durer 6 mois à 1 an, où le futur initié suit les membres de son futur groupe et va être éduqué. Et en fait, tout le travail du président du chapter va être de donner progressivement au futur initié des parties du liderato que le futur initié doit lire et apprendre par cœur. Et là, en fait, il y a un double processus. Il y a d'abord l'apprentissage par cœur. Les Nietas appellent ça de corazón. Mais il y a aussi un autre apprentissage qui est plutôt de l'ordre philosophique. Il y a une discussion qui se fait entre le futur initié et les membres du chapter, qui est une discussion par exemple, si on prend les règles, le futur initié doit connaître la règle 12. Voilà, il faut savoir la réciter. Mais il suffit pas juste de la savoir, il faut aussi savoir l'interpréter. parce que c'est des règles qui datent des années 80, donc qui sont aussi très liées au contexte carcéral portoricain, qui sont plus nécessairement applicables aujourd'hui. Ce que par exemple le Padre nous dit, il faut que tu comprennes ce que Carlos La Sombra nous a transmis dans ces règles-là. Et le moment de l'initiation, c'est un moment rituel où le futur initié se retrouve dans un cercle entouré de ses futurs guerreros, futurs membres. Et on lui pose des questions sur les règles, on lui pose des questions aussi sur la vie de Carlos. Moi, le padrino, il me propose de m'initier au bout d'un an de terrain à Barcelone. Il invite plusieurs présidents de chapter à venir chez moi pour faire cette initiation. Et donc, voilà, ils arrivent tous chez moi, puis ils se mettent en rond, et voilà, se passe ce moment de d'intronisation, en fait. Les questions, c'est, quelle est la date de naissance de Carlos La Sombra, combien de sœurs il avait, est-ce qu'il en avait, quel âge elle avait, quand il est mort. C'est des questions pour sonder la connaissance de Carlos, la connaissance de l'histoire de Carlos La Sombra, des règles, de la philosophie Nietas, avec tout cet enjeu de s'assurer que le futur membre soit bien en adéquation avec la philosophie Nietas. M'a transmis, c'est un PDF du livre. Le livre que moi j'ai à Barcelone, c'est la dernière itération en fait de ce livre-là. C'est une forme de palimpseste, c'est-à-dire que j'ai un livre dans lequel on peut retrouver plusieurs couches d'écriture. Et moi, ça, je le remarque en lisant ce que me donne le padrino, parce qu'il y a des ajouts. Par exemple, dans le livre que le padrino me donne, il y a un texte qui a été écrit par Bebo. Mais il y a aussi un texte qui a été écrit par le padrino, signé par le padrino et daté par le padrino. Donc, de fait, ce livre-là, c'est pas le livre qu'il y a dans le placard de Mickey. C'est un livre qui a été réécrit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque moment de circulation, les Nietas vont réécrire ce livre-là. Quand ces deux Équatoriens partent de Rikers Island, ils partent avec des petits carnets et des petits bouts du Liderato. Quand ils arrivent à Guayaquil, ils reconstituent ce livre-là. Ils le reconstituent à travers ces petits carnets et à travers leur mémoire, en fait. En Équateur, le livre va être réécrit. Et en fait, il va être réécrit et il va y avoir des ajouts. Jusqu'à arriver, en fait, à 7 livres matériels. Bon, alors le padrino, lui, il est devenu Nietas en Équateur. Ça a été un des grands chefs de guerre Nietas, assez sanguinaire. Il est connu pour sa violence en Équateur. Il arrive à Barcelone assez jeune, il a à peu près 20 ans, et il part avec le Liderato. Et quand en fait il arrive à Barcelone, il devient dealer de crack, il se fait arrêter par la police, il se fait perquisitionner et il se fait prendre son livre, en fait, il se fait prendre le Liderato. Et donc à ce moment-là, à Barcelone, il y a plusieurs Nietas qui arrivent d'Équateur, qui arrivent pas nécessairement ensemble et qui vont commencer chacun de leur côté à recréer des petits groupes. Et notamment rentrer en guerre avec les Latin Kings qui eux aussi ont cette circulation depuis l'Équateur jusqu'en Espagne. En fait, c'est le padrino qui m'envoie en Équateur, au milieu de mon terrain barcelonais, parce que lui, il essaie de réorganiser les Nietas au niveau mondial, parce qu'il prend de l'importance, il prend de la puissance, et il me dit, bon voilà, tu vas en Équateur. Moi, je lui avais dit que je voulais aller en Équateur. Il m'avait dit, non, en Équateur, faut pas que tu y ailles, c'est beaucoup trop dangereux, les Nietas sont toujours en guerre. Donc, quand moi, je lui dis ça au début de mon terrain, il me dit, surtout pas. Et puis, finalement, les choses se décantent un peu, et il me dit, bon bah, très bien, vas-y. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas me ramener le Liderato équatorien, parce que moi, il y a des choses dedans qui me manquent à Barcelone. Et donc, il m'envoie chez un de ses anciens lieutenants barcelonais, qui pour le coup a été renvoyé en Équateur. Et voilà, j'ai la tâche de ramener le livre. Et puis moi, je pensais que c'était la même chose, c'était soit un format PDF, soit un petit livre. Et quand je rencontre le secrétaire des Nietas en Équateur, à Guayaquil, c'est 7 livres, en fait, qu'il me donne. On fait une photocopie, il me donne ces 7 livres en me disant, tiens, ça, c'est les livres qu'a demandé le padrino.
Corazón.
Bon, il faut savoir aussi que en soi, ces livres-là, ils sont connus, en fait. Ils sont connus par la police new-yorkaise, ils sont connus par la police barcelonaise. Il n'y a rien de caché, en fait. C'est secret, il y a quelque chose de sacré dans ces livres pour les Nietas, mais il n'y a rien de nature criminelle, en fait, dans ces livres-là. Mais ils sont importants pour le Padrino, et ils sont importants... En fait, ce qui est important pour le Padrino, c'est pas seulement que je ramène les livres, c'est surtout que c'est sa capacité à montrer aux Nietas new-yorkais, portoricains, équatoriens, que lui, il peut envoyer un membre de son chapitre, moi, aller chercher des livres. Et c'est en fait une démonstration de puissance qu'il fait. Parce que là, ce qu'il essaye de faire, c'est de s'imposer comme le leader des Nietas sur le plan international. Donc moi, je ramène ces livres-là à Barcelone. Le Padrino a entrepris tout un travail de réécriture du Liderato. Donc ça, c'est la troisième phase de réécriture pour homogénéiser un peu l'histoire qui est racontée dans ce Liderato, imprimer sa patte. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est comme ça que Bebo avait aussi... pris autorité dans le monde Nietas. C'est comme ça qu'il avait fait autorité dans les années 90 en reconstituant ce Liderato, en allant chercher des papiers auprès des anciens prisonniers, en allant... En fait, Bebo, lui, a fait des pèlerinages à Porto Rico pour aller chercher l'histoire de Carlos. Il a écrit, pas que lui, mais il a fait partie des figures de cette écriture de Liderato. Et le Padrino, 20 ans plus tard, il fait exactement la même chose à Barcelone. Il reprend un peu tous les bouts de Liderato qui circulent à Barcelone pour en faire quelque chose de beaucoup plus homogène. Alors, bien sûr, c'est pas non plus que lui. Hein. Lui, il est secrétaire, en fait, à ce moment-là, d'un chapter. Pour en faire quelque chose de plus homogène et de créer le Liderato espagnol qui sera le Liderato qui va me donner, en fait. Et maintenant, je dis que je suis un individu que je suis un bandit. Porque yo soy un bandido, yo voy a explotar mis alternativas de bandido para meterle mano al gobierno. Porque independientemente de todos los revolucionarios que hay aquí, que dicen que son respetuosos y que llevan a cabo ciertas cosas, por ahí, pues entonces yo les voy a decir, antes de empezar el diálogo que voy a tener con ustedes, Carlos, c'est une figure très importante dans cet univers-là, parce que c'est une figure aussi complètement idéalisée, complètement rêvée, qui vient de biais différents, mais qui vient notamment de New York, et donc du coup, il y a aussi toute une culture qui vient avec cette image-là de Carlos. En fait, il y a la création comme d'une communauté imaginaire et d'une famille où Carlos aurait la place du bon père, en fait, et du bon gangster. Et il y a tout un jeu qui se fait. Donc, je parlais tout à l'heure de discussion philosophique autour des règles. C'est pas juste une discussion autour des règles, c'est aussi d'essayer de comprendre ce que Carlos a transmis. Et donc, du coup, il y a tout un jeu sur, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être un bon gangster. Il y a tout un travail sur l'éthique autour de ces règles, parce que les Nietas, voilà, et d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai souvent eue avec eux. Il y a beaucoup de Nietas qui vont dire non, nous, on n'est pas un gang, on n'est pas des gangsters, on est des bons gangsters. Pas un gang comme toi, tu pourrais l'imaginer. On fait du travail communautaire, on a des règles, on est structuré, on mène une bonne vie. Il y a toute cette idée de mener une bonne vie dans des conditions qui peuvent être difficiles, mais de travailler sur soi. Et en fait, tout ce travail de la conviviencia, elle invite le futur initié à ce travail sur soi, à se développer, à un espèce de travail personnel, en fait, quasi spirituel, qui est lié à la figure de Carlos. Et donc du coup, il y a tout ce jeu, en fait, toute cette frontière qui est complètement poreuse, parce que Bebo, par exemple, ça a aussi été un dealer de drogue, malgré que ça a été celui qui a mis en place la pacification et qui a rentré dans un discours qui disait, en fait, si tu vends de la drogue, tu suis pas le chemin de Carlos, tu suis pas la philosophie de Carlos, alors reviens dans le chemin. Bah, il a aussi été partie prenante de ce monde violent des gangs.
Martin Lamotte a quitté le monde des Nietas peu après la fin de son travail de thèse. Mais sa recherche reste imprégnée de ce terrain, naviguant entre les frontières du licite et de l'illicite, de l'éthique et de la construction de soi. Vous pouvez retrouver l'article de Martin Lamotte consacré aux Nietas et à Carlos dans Brigand, le numéro 74 de la revue Terrain.
Secret, terrain, terrain, secret, secret, terrain.
Vous avez écouté Secret de terrain, un podcast développé par le média The Conversation France en collaboration avec la revue Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines.